Alors je me réjouis de pouvoir partager aujourd'hui cette parole de Dieu qui pour moi est l'essence de ma vie aujourd'hui. J'aimerais lire un verset qui commence et qui terminera cette prédication. Nous la trouvons dans le livre de Job, tout à la fin du livre de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Au mois d'août de l'année passée, nous avions partagé un des cinq sens qui peut nous jouer des tours. Je veux parler de la vue. Et je vous avais proposé une balade qui aurait pu mal se terminer si nous n'avions pas retrouvé les clés de voiture. Nous avions modifié l'orientation de notre regard, regardant vers le haut plutôt que vers le bas. Aujourd'hui, et avec l'aide de la parole de Dieu, et selon notre vécu au quotidien, je désire vous entretenir sur la portée extérieure et intérieure de nos regards. Découvrir et nous encourager les uns les autres et ensemble grandir et progresser dans notre marche avec Dieu. Autour du mot « vue » gravite un tas de synonymes et de vocables qui caractérisent et identifient mieux ce petit mot de trois lettres. La vue, c'est le substantif du verbe « voir » et le résultat de ce que nos yeux ont devant eux en s'ouvrant. Et la vue, c'est également le champ de vision de ce qui est devant nous, une manière passive de regarder, sans intention préalable. Voir, c'est regarder. Et regarder n'est pas une compétence, c'est à chaque regard une nouvelle expérience. Je répète, à chaque regard une nouvelle expérience. Dans Genèse 15 au verset 5, il est dit: et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. J'ouvre les yeux et je découvre ce qui est devant moi. Cette expérience dans le laboratoire de notre vie se classifie presque instantanément dans les tiroirs soit de nos pensées, soit de notre vécu, de notre curiosité, de notre besoin, et le classement peut devenir difficile. Avant d'aller plus loin, je vous propose une lecture dans la Genèse, où Dieu a fait un tri, des choix avec un classement répertorié. Et il vit que cela était bon. Genèse 1, 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans Genèse 1 au verset 10, Dieu l'appela la terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dans Genèse 1, au verset suivant, le verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux une semence selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis toujours dans la Genèse, au verset 18, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Puis au verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Puis au verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Et pour terminer, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. Cette vision que Dieu a sur ce qu'il crée m'impressionne et me questionne par rapport à la vision que j'ai et au classement de ce que je vois devant moi. Ce qui retient mon attention, c'est l'esprit décisionnel de Dieu. Ce qui est bon est le résultat du choix qu'il a vu de ce qu'il a créé, y compris l'homme et la femme qu'il a créé à son image. Le regard porté sur le fruit de l'arbre et les conséquences, la chute, a changé le regard des hommes et la liberté de choisir s'est rendue visible et accessible, mais souvent difficile. Dans Genèse 3, au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà qui n'arrange pas vraiment les choses dans la suite à donner à notre vision. Quel choix faire et comment classer ou débarrasser ce que nous voyons? Le monde nous offre la possibilité d'expérimenter ce que nous voyons avec des slogans tels que « l'essayer, c'est l'adopter » ou encore « essayer pour voir ». La curiosité, selon saint Augustin, n'est qu'un plaisir pervers et dangereux qui détourne du bien. Je pense, pour ma part, et je crois que le regard de Dieu n'est pas le même que celui que nous portons avec notre nature humaine, et que nous pouvons également recevoir et progresser avec le regard de Dieu. Pour poursuivre, j'aimerais vous lire quatre textes qui illustre le regard de Dieu sur nous. Tout d'abord, dans Matthieu, Matthieu 9, au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. Il s'appelait Matthieu. Et il lui dit, « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Puis dans Luc 19, au verset 5, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Puis dans Jean 1, au verset 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Et pour terminer, dans Matthieu 9, au verset 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. » Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le regard de Dieu sur nous est différent du nôtre sur nos situations. Son regard n'est pas qu'extérieur. Dieu regarde au cœur. Et l'encouragement qu'il adresse à David devant la grandeur et l'arrogance de Goliath nous est également adressé. Souvenons-nous du choix de Dieu pour succéder à Saül. Dieu a vu le cœur de David. Et transmettant ses pensées à Samuel, ce dernier a parlé à Saül en ces mots, « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. » Il en est de même dans les quatre textes que nous venons de lire. Jésus voit le cœur de Matthieu et il l'appelle à le suivre. Jésus voit le cœur de Matthieu. Jésus voit la vraie motivation de Zachée et il l'invite. Jésus voit également l'authenticité de la remarque de Nathanaël et il l'accueille. Si ses regards sont nominatifs dans ces trois premiers passages, Jésus sait porter également son regard sur son peuple, le peuple que nous sommes. Dans le quatrième passage, David l'a également bien compris lorsqu'il s'adresse à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quel cœur Dieu voit-il en nous? Cette question a une réponse en forme de question. Le contenu de mes pensées altère-t-il ma vue? Et mon regard. Dieu nous voit transformés, Comme Jésus a vu en Pierre, avant d'être arrêté, un homme transformé. Dans Luc 22, au verset 32, il est dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Même au travers du feu de l'héroïsme spontané de Pierre, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Même au travers du reniement, le Seigneur s'étant retourné, regarde à Pierre. Du découragement de Pierre lorsqu'il est sur le bord de l'eau et qu'il dit « Je vais pêcher ». Et au travers de la repentance, il lui dit, Pierre dit à Jésus « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Et Jésus lui dit « Paix mes brebis ». En d'autres termes, « Affermis mes frères ». Chose extraordinaire, Dieu nous voit transformés. Même si parfois notre volonté et le désir de voir Dieu agir dans nos vies sont freinés par nos pensées et ce qu'elles renferment. Nous traînons ou transportons souvent avec nous du passé qui devient présent lorsqu'il est confronté à ce que nous voyons. L'enregistrement de ce que nous avons vécu est sauvegardé sur le disque dur de notre mémoire. Avez-vous déjà été chercher une recette de cuisine sur Internet? Vous la voyez à l'écran. Si elle est enregistrée dans votre mémoire, elle l'est également dans votre ordinateur. Et si vous retournez sur un site de nourriture, hop, la revoilà qui apparaît. Mais plus au milieu de l'écran, mais dans un angle, comme un rappel. Et vous ne pouvez rien faire. C'est dans la mémoire. Seul un changement de compte, d'adresse ou d'identité permettra de tout recommencer. Ne voilà-t-il pas une belle image de notre vie? Seul le choix personnel d'une nouvelle identité, d'un changement de mentalité, sous le regard de Dieu, en Jésus-Christ, nous permettra d'avoir une nouvelle vision de ce qui nous entoure, sans retour en arrière. Je peux vous annoncer une chose. Dieu a un appel personnel sur chacun d'entre nous, sur chacun d'entre vous. Et ce qu'il voit en nous est plus grand que ce que nous pouvons espérer de nous. Ce qu'il voit en nous est plus grand que ce que nous pouvons espérer de nous. Alors, Dieu voit-il en moi ce changement auquel j'aspire, et mon regard est-il encore altéré par mon péché? Posons-nous cette question avec sincérité et cherchons à mettre en pratique ce que Jésus enseigne. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Paul, sur le chemin de Damas, alors qu'il était persuadé de voir et de faire juste, a été arrêté dans sa vision et aveuglé pendant 3 jours. 3 jours, c'est le temps nécessaire pour passer d'une vision terrestre à une vision céleste. Et il dira, Paul, aux Éphésiens, « Les yeux de votre cœur soient illuminés par Christ, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Ma vision de la marche chrétienne réside dans le fait d'accepter de quitter notre zone de confort, de notre religiosité, et de regarder la main tendue de notre Seigneur et pouvoir proclamer avec Job le verset que nous avons lu en introduction. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Comment pouvons-nous poursuivre le partage que nous venons d'avoir? Nous avons plusieurs possibilités. La première, c'est de s'en retourner heureux d'avoir passé un temps ensemble. Ou alors, d'accepter d'être remis en question et de demander la grâce à Dieu de pouvoir nous ouvrir les yeux. Les yeux sur un avenir nouveau, les yeux sur une vie nouvelle. La repentance fait partie de ce cheminement. La reconnaissance est le résultat de ce travail intérieur. Reconnaissance, comme il l'a été partagé précédemment, pour le sacrifice de Christ à la croix. Jésus, aujourd'hui, voit notre situation, connaît notre situation, et je vais aller plus loin, partage notre situation, afin non pas de nous laisser croupir là où nous sommes, mais afin de nous élever et de nous permettre de voir une nouvelle vision en lui. Dieu, notre Père, nous aime d'un amour incommensurable, d'un amour qui dépasse tout. Entrons ensemble dans cette vision-là. Entrons ensemble et demandons la grâce à Dieu de mettre un collyre dans nos yeux afin que nous le voyions agir dans nos vies. Que Dieu vous bénisse ardemment. Amen.